Papa, non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère, c'est même devenu ultra simple, et notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Vous allez voir, tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canon dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos campagnes email. Vous pouvez même vendre votre propre formation en ligne. Donc, si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, eh ben, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, à l'occasion de ce partenariat, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. Alors, n'attendez plus et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline. Hello la team podcast, ici Pauline Léniaud et vous êtes sur Le Gratin. Le Gratin, vous le savez, ce sont les lundis des interviews avec des invités tous plus incroyables les uns que les autres. Et le mercredi, je passe un petit moment avec vous durant une trentaine de minutes pour une leçon du gratin. L'objectif, c'est tout simplement de discuter avec vous, d'essayer de répondre à vos questions, de vous coacher quoi, d'une certaine manière pour que vous arriviez à devenir la meilleure version de vous-même. Et alors aujourd'hui, je suis avec Anne, qui est fondatrice de Éthique, avec un K, Hotels. Anne me pose la question suivante. Elle me dit « Je suis aujourd'hui sur un site gratuit qui répertorie des hébergements responsables dans le monde, mais souhaite pouvoir tirer des revenus de ce site. Je m'oriente donc vers un contenu freemium. Ma question réside surtout sur à quel moment faire tout ça et comment le faire aussi. Quel est le bon dosage entre ce qui reste gratuit et ce qui va devenir payant ? Et surtout, la première question est « Est-ce que tu penses que ça soit faisable ?» Oui, bien sûr que c'est faisable et j'ai essayé de répondre avec Anne à cette question. On a creusé donc tous les détails de comment passer d'un contenu entièrement gratuit à un contenu payant, qui est une question que vous êtes assez nombreux à me poser. Donc j'espère que cet épisode vous plaira. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon du gratin. Allô Anne ?
Bonjour Pauline !
Salut Anne, je suis ravie de t'accueillir sur cette leçon du gratin.
Merci de me recevoir. Je suis une fidèle auditrice et je suis vraiment ravie d'être avec toi aujourd'hui.
Trop cool. Les fidèles auditeurs, ce sont mes préférés. écoute, Anne, je suis ravie et je veux bien que tu commences, s'il te plaît, par te présenter et me dire un petit peu qui tu es et puis qu'est-ce qui t'amène sur cette leçon du gratin.
Alors, donc, je suis Anne et j'ai créé Éthique Hotel, qui est la plateforme collaborative qui facilite l'accès au tourisme durable pour tous. L'idée, c'est de mettre en relation des explorateurs, c'est comme ça qu'on appelle ceux qui veulent voyager mieux, et des professionnels du tourisme durable. Donc aujourd'hui, c'est des établissements responsables de tout type et tout budget pour répondre vraiment à tout le monde, pour que tout le monde puisse voyager mieux, et également des agences réceptives locales pour ceux qui souhaitent des voyages clés en main. Et en fait, j'ai créé le site il y a un an en parallèle de mon activité professionnelle. Et donc, c'était un site gratuit, c'était un annuaire. Mais ma situation professionnelle, elle a changé en fin d'année. Et en parallèle, j'ai été sélectionnée pour intégrer la promo HEC Challenge Plus.
Cool.
Donc, je me suis dit que les planètes étaient alignées pour que lancer ce projet, parce que ça me tient vraiment à cœur. Je me suis passionnée pendant un an. J'ai passé mes soirées, mes week-ends. Donc voilà, et donc ma problématique, c'est que c'est un site gratuit et qu'aujourd'hui, je souhaiterais en vivre, donc passer sur un site payant. Donc je réfléchis plutôt à quelque chose de freemium, mais si tu as d'autres propositions, n'hésite pas. Et du coup, déjà, je voulais savoir si toi, tu penses que c'est un modèle qui est possible, si c'est possible d'être réalisable et comment le faire, quand le faire, quelle est la dose de gratuit payant, enfin, tous tes conseils à ce sujet-là.
Écoute, c'est une super question parce que je vais être honnête avec toi, il y a plein de personnes qui me la posent, cette question. Comme souvent, il n'y a pas de réponse unique, je vais donner moi mon point de vue et peut-être quelques principes auxquels j'ai réfléchi. Donc déjà, tu vois, pour répondre à ta question, oui, c'est possible. Enfin, bien sûr que c'est possible de passer d'un modèle 100% gratuit à un modèle avec des contenus payants et des contenus gratuits. Je tiens juste à dire que justement, là où il faut être vigilant, c'est qu'il faut garder quand même des contenus gratuits. Oui, tu vas avoir des gens qui vont gueuler parce qu'ils vont pas être contents, mais bon, rien ne les force, si tu veux, d'une certaine manière, à acheter des contenus payants. Hein. Mais bien sûr, ça existe. Je pense qu'un bon exemple que j'ai en tête là récemment, c'est Chloé Bloom, que tu connais peut-être, qui est une influenceuse. Alors, c'est intéressant l'histoire de Chloé parce qu'elle était d'abord influenceuse dans le secteur vraiment de la santé, du health, tu vois, nourriture, nutrition, sport. Et en fait, elle s'est passionnée pour le développement personnel et donc elle a fait un 360 total et maintenant elle est beaucoup plus sur le secteur du développement personnel. Et je te parle de ça parce que depuis elle fait beaucoup de contenus qui sont gratuits, hein. Elle a un podcast, elle a plein de choses, mais elle a également je crois ce qu'elle appelle la Bloom Academy, donc je fais son petit moment de pub, mais pour une communauté de personnes plus restreinte qui se retrouve, si tu veux, à avoir des contenus supplémentaires. En général, la manière dont ça se passe, c'est que ce sont donc, c'est un cercle le plus restreint de personnes, tu vois, ça peut être quelques dizaines de personnes, quelques centaines de personnes à terme, parfois quelques milliers, mais qui vont avoir une formule souvent d'abonnement et qui vont donc se retrouver, tu vois, autour d'une communauté. Et en général, d'ailleurs, du coup, cette communauté, il faut l'animer, hein, il y a un vrai travail, c'est une deuxième communauté, si tu veux, comme un cercle qu'on connaît mieux et qui ensuite permet d'avoir plus de contenu, mais du coup, de manière payante. Une autre personne que j'ai en tête, je te donne ses noms, comme ça, tu pourras regarder et creuser un peu aussi leur business model. Donc il y a Chloé.
Après, l'idée, moi, c'est en plus que je reste en accord avec mes valeurs éthiques et tout ça. Donc mais je vais regarder ça.
Mais on va en parler parce que là, elle parle pas de les mêmes choses, mais en revanche, si tu veux, enfin, éthique et faire payer pour un service font bon ménage, en fait, contrairement à ce que parfois on pense. Donc,
non, c'est mais pas je veux parce pas que t'es éthique. Qu'on croit que ça y est, je veux que ça soit cohérent. Enfin, voilà,
bien sûr.
Je veux que ça soit quelque chose.
Fait.
oui, bien sûr, donc, je sais que ça peut faire bon ménage.
donc l'autre personne que j'ai en tête, c'est Ophélie Duvillard, qui est une influenceuse aussi et qui a lancé son podcast qui s'appelle Game Changer. Et maintenant, elle a une communauté de femmes qui se retrouvent aussi autour d'elle, avec plus de contenus, si tu veux, qui sont des contenus exclusifs. Donc en fait, première chose, c'est ça existe. Deuxième chose, c'est du coup, à quel moment est-ce qu'on le fait et comment est-ce qu'on s'y prend concrètement? Malheureusement, j'ai envie de te dire, c'est toi qui vas le sentir, c'est ta communauté aussi peut-être qui va te le dire. Donc moi, ce que j'ai toujours tendance à conseiller aux gens, c'est de poser la question. Ça fait peur. Mais moi, tu vois, c'est ce que j'ai fait quand j'ai commencé à lancer le sponsoring sur mon podcast. Oui, je savais qu'il y aurait des personnes qui seraient pas contentes parce que, évidemment, c'est plus agréable de pas avoir de pub en début de podcast moi-même, hein, en tant qu'auditrice, si tu veux, c'est la même chose. Mais il y a un moment donné où si mon audience veut que le gratin continue à exister, que je puisse continuer à créer des contenus, voire plus de contenus, moi, c'est du temps et c'est des coûts. Et donc, poser la question en expliquant pourquoi je le fais, pas juste pour me mettre plein de fric dans les poches, mais juste parce qu'en fait, j'ai envie de recruter des gens, j'ai envie de créer plus de contenu, j'ai envie d'avoir de la vidéo. Enfin voilà, j'ai besoin d'investir. Je l'ai expliqué et j'ai posé la question. Et tu verras, ce qui est très très chouette, c'est que quand on pose la question, les gens répondent globalement. Surtout si tu commences à avoir une petite communauté. Et donc, ça te permettra d'avoir quand même un premier regard pour savoir si vraiment, décidément, toi, ta communauté, elle est pas prête à avoir ça, ou si à l'inverse elle peut accepter cette idée. Et puis le deuxième bénéfice de demander en expliquant, c'est du coup comme je dis que t'expliques. Et donc en fait ça va pas arriver de but en blanc, tu vois, du jour au lendemain en mode salut les gars, maintenant tout est payant. non, au contraire. T'expliques la réalité de ta problématique du moment, c'est que tu te donnes énormément de mal, mais qu'il y a un moment donné où en fait il faut aussi que tu te fasses payer, parce que sinon tu ne vas pas pouvoir le faire dans le temps, tout simplement. Et ça, je pense vraiment que quand on met, si tu veux, un consommateur face à ses responsabilités d'une certaine manière, moi je suis toujours très très pas agréablement surprise, parce que maintenant j'ai l'habitude, mais je trouve que finalement on a tendance à un peu infantiliser les gens, et qu'en réalité ils savent, si tu veux, la réalité, c'est que la création de contenu c'est un travail, que ça prend du temps, que c'est pas si facile, et que voilà, on peut pas le faire toute la vie sans jamais être payé, parce que sinon, sauf si on a un job à côté à la rigueur, mais encore, au bout d'un moment, on se lasse, je pense. Et donc c'est important de le rappeler. Et donc moi je dirais que vraiment la première étape c'est que tu demandes à ton audience en expliquant, et je pense que déjà ça va te donner une très bonne clé. Après l'étape pas facile, je trouve, c'est le pricing, savoir combien tu fais payer, qu'est-ce que tu donnes exactement, mais ça, pour essayer aussi de te libérer un peu, et je vais te laisser parler juste après, c'est tout ça peut changer. C'est-à-dire que au début tu peux penser que, tu vois, ça sera une formule d'abonnement de 10 euros par mois pour avoir des contenus supplémentaires, et puis ton offre elle va s'étoffer. Donc donc tu vas pouvoir augmenter le prix, ou en fait tu vas te rendre compte que l'abonnement c'est pas la bonne formule. Ce que je veux dire, c'est que rien n'est écrit dans le marbre, et que si tu te lances dans la grande aventure de l'entrepreneuriat, bah tu vas te rendre compte qu'il va falloir que tu testes plein de choses différentes, et que rien n'est définitif, tu vois, d'une certaine manière. C'est assez libératoire, je trouve, de se le dire. Libérateur.
Ouais, ouais, c'est sûr. Là, en fait, je suis en parallèle, je suis en train de lancer une étude de marché auprès de ma communauté pour justement savoir s'ils sont prêts, combien ils sont prêts à le faire, dans quel format et tout ça. Mais c'est intéressant d'avoir aussi ton retour et c'est peut-être qu'il faudrait que je questionne plus sur Instagram du coup, de manière plus large, parce que là j'ai pris un échantillon très restreint.
Je pense que tu devrais le faire plus sur Instagram. Après, vraiment le petit conseil, enfin en tout cas de ce que j'ai vu des personnes qui le font avec succès, même comme moi d'une certaine manière, mes formations Growth, c'est pas un abonnement ou quoi que ce soit, mais c'est des contenus supplémentaires sur lesquels je me suis donné énormément de mal, tu vois, sur des thématiques bien précises. Donc je l'ai fait payer parce que pour le coup, c'est un sacré investissement de ma part en termes de temps, en termes de montage vidéo. Enfin, ouais, ça a des coûts, si tu veux, qui sont clairement importants. Et donc elles sont payantes. Sincèrement, personne ne m'a jamais dit c'est pas normal que tu fasses payer ces formations, parce qu'en fait les gens se rendent compte que bah d'une certaine manière tout travail mérite salaire. Mais par contre, là où il faut être vigilant, et je pense que ça sera ton travail à toi d'y réfléchir, c'est de te dire bah, je continue à garder quand même de très bons contenus gratuits. C'est hyper important parce que c'est ça aussi qui va entretenir ta communauté, mais pour autant tu peux tout à fait passer sur certains contenus exclusifs sur un modèle qui est différent et qui va faire que cette communauté bah, elle va avoir accès tout simplement à des choses supplémentaires. C'est tout simplement un service supplémentaire que tu leur donnes, et s'ils le choisissent, ils sont libres de pas le faire, hein, bien sûr, mais s'ils le choisissent, en général, ils seront assez contents de payer. Et puis une fois de plus, au pire, j'imagine qu'ils pourront résilier. Donc t'es pas non plus en train de leur tordre
la vie.
C'est ça. Enfin, t'es pas en train de leur tordre le bras dans le dos, tu vois. Je veux dire, il faut pas avoir de culpabilité vis-à-vis de ça. S'ils sont pas contents, d'une certaine manière, ils partiront, quoi. Donc je pense que l'équilibre, c'est vraiment de continuer à faire des contenus de qualité gratuits. Très souvent, je pense que le risque, c'est de se dire, bon, en fait, maintenant, il n'y a plus que les contenus payants qui comptent. Et donc, on laisse un petit peu tomber le reste. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut être très, très vigilant, de continuer, tu vois, à s'astreindre d'une certaine manière, à être généreux, quoi, tout simplement. Moi, je crois beaucoup au fait que sur les réseaux, c'est la générosité qui paye dans le temps, que quand on donne, bah, on construit de la confiance. Et au bout d'un moment, bah, quand cette confiance, elle est là, voilà, les gens sont plus prêts à justement passer à des contenus payants. Donc je pense qu'il faut que tu essayes de jauger si cette confiance elle est déjà suffisante ou pas vis-à-vis de ta communauté par rapport à ce que tu produis.
Et du coup tu penses que, parce que moi du coup comme je référence des établissements, donc des hôtels, guest house et tout ça, tu penses que je peux aussi bien proposer un format un peu freemium pour les établissements et aussi pour les voyageurs?
Ouais, pourquoi pas.
Ouais.
Ça dépend de toi, ta communauté, en fait, laquelle tu vises en priorité. Mais j'imagine, tu vois, que des contenus supplémentaires, hyper spécifiques, hyper rigoureux, tu vois, où tu vas montrer vraiment que tu as testé les établissements, leur donner peut-être des conseils supplémentaires, etc. Je veux dire, ça peut être intéressant aussi, tu vois, pour les voyageurs. Et puis, évidemment, pour les hôtels, être référencé, ça, c'est évident que pour eux, c'est un plus indéniable, j'imagine.
Oui, bah surtout là que j'essaie de travailler sur le référencement justement pour avant l'été, parce que bon, c'est vrai que là j'ai lancé ça deux semaines avant le confinement l'année dernière, donc le voyage c'est pas forcément la meilleure période, mais du coup l'idée c'est d'améliorer notre visibilité avant l'été justement pour montrer aux établissements qu'on peut leur apporter justement de la visibilité, des contacts qualifiés, et du coup après envisager de passer à un autre niveau en fait.
Ouais, complètement. Ben, je te dis, que ça soit dans le cas d'ailleurs des établissements ou dans le cas de ta communauté B2C, on va dire, des voyageurs, je pense que t'as plutôt intérêt à poser la question. Tu peux faire deux mailings différents si jamais t'as des contacts mail. Ça peut être fait sur Instagram aussi. Moi, j'aurais tendance à essayer d'avoir un maximum d'informations sur le sujet. Une fois de plus, hein, pour être très très clair, tu auras forcément des personnes qui vont te dire que ça les saoule.
Ah oui,
c'est normal.
Sûr, c'est sûr.
C'est normal. C'est juste qu'il faut que tu fasses la part des choses et que tu vois si t'as quand même une prépondérance de personnes qui sont prêtes. Tu vois, moi, par exemple, si je te redonne cet exemple personnel avec le gratin, j'ai choisi à escient de pas faire de sponsoring pendant quasiment, je crois, deux ans complets, 1 an et 9 mois, je crois, avant de me lancer dans le sponsoring, parce que j'estimais que j'étais pas pas prête peut-être, j'estimais que c'était pas nécessaire, j'avais pas encore décidé aussi que j'allais recruter, tu vois, des personnes pour m'accompagner sur le gratin, donc j'avais moins de coûts, et donc si tu veux, c'était pas grave, je l'ai fait comme ça, et j'ai construit la communauté là-dessus. Je m'étais jamais dit que j'allais un jour en faire, si tu veux, je t'avoue que c'est arrivé un petit peu de manière naturelle, c'est qu'au bout d'un moment, quand je commençais à accumuler plein de freelance pour m'aider dans tous les sens, et que ça commençait à me coûter assez cher, je me suis dit, bon, va peut-être falloir trouver des solutions, et donc je l'ai fait avec beaucoup de sincérité, donc je pense que toi, c'est la même chose. Si t'as vraiment des personnes qui te suivent, c'est déjà une chance incroyable. Enfin, c'est un travail aussi que t'as, c'est grâce à tout ce que t'as fait. Donc, tu peux t'en féliciter. Mais du coup, ces personnes-là, soigne-les et te l'aideraient, si tu veux, avec l'égard qu'ils te méritent. Parce que s'ils te suivent depuis quelques temps, bah voilà, il faut aussi qu'ils aient d'une certaine manière leur mot à dire. Et je pense que le meilleur moyen de leur faire dire, bah, c'est tout simplement de leur poser la question, quoi. Ça revient toujours à ça.
Ouais, ça c'est bon, ça, enfin, l'humain pour moi il est hyper important, donc c'est vrai que ça fait partie aussi pour moi des choses éthiques, enfin la responsabilité de remettre de l'humain au cœur du sujet, donc c'est vrai que ça j'ai, enfin t'as raison, je vais les interroger plus.
Et puis surtout, comme tu le dis, ce qui est cool, c'est quand tu sais, tu me disais au début, ouais, mais il faut que ça soit en phase avec mes valeurs. Bah, en fait, c'est exactement en phase avec tes valeurs, d'après ce que je comprends, de leur poser la question et de vraiment les écouter, c'est-à-dire de pas faire n'importe quoi. Si tout le monde te dit non, no way, faudra peut-être que tu te remettes en cause et que tu dises, bah, en fait, c'est peut-être pas ça le business model, tu vois. Mais à l'inverse, je pense personnellement que quand on explique les choses, et ça, je le dis très souvent, que ça soit pour des augmentations de prix, que ça soit pour des nouveaux services qu'on apporte, pour des changements aussi parfois de tu vois de service, quand on explique vraiment les choses, quand on explique le pourquoi, le comment, et ça vaut d'ailleurs avec des clients, mais ça vaut aussi avec des collaborateurs, ça vaut avec des investisseurs, ça vaut avec tout le monde, il y a très très peu de messages qui ne sont pas entendables et qui ne sont pas acceptables. Évidemment, je dis pas que il faut tu vois être malhonnête ou quoi que ce soit, au contraire, mais ce que je veux dire, c'est que beaucoup de personnes moi viennent me voir en me disant oui, mais j'ai peur de faire une hausse de prix, ou j'ai peur de changer de service, ou bah tu vois, je te donne cet exemple encore avec Chloé Bloom qui a changé, et c'est souvent le cas, de complètement de prisme. Quand elle parlait au début de sport et maintenant elle parle de développement personnel, sa communauté au début, je pense qu'elle s'est dit mais qu'est-ce qui se passe, quoi, WTF. Et en fait, le fait qu'elle soit hyper pédagogue là-dessus fait que sa communauté a pas forcément adhéré. Il y en a certains, j'imagine, qui sont partis, mais il y en a plein qui ont voulu la suivre justement pour sa transparence, tu vois, et eux-mêmes vivre finalement ce même cheminement. Donc, je pense que si t'as cette chance d'avoir une communauté, une fois de plus, plus qu'une chance, le mot est pas bon, le mérite d'avoir cette communauté, franchement, traite-les comme tu traiterais des humains normaux, d'accord. C'est-à-dire en leur disant, si tu veux, vraiment ce qui te passe par la tête. Je pense que très souvent, on complexifie un peu les choses et qu'au final, si on est un peu sincère dans sa démarche, franchement, les gens l'acceptent vraiment très très bien. Moi, je te le dis, même avec Gémio, avec ma boîte, il a pu nous arriver de temps en temps de devoir faire des hausses très fortes de prix sur certains produits. Oui, les gens sont pas contents, c'est sûr. Quand tu prends 1000 euros sur un bijou, si tu veux, et que tu comptais te l'acheter, et qu'en fait, là, bam, il a pris 1000 euros, c'est jamais très agréable. Mais en fait, si on explique la réalité, c'est-à-dire que on a notre atelier à renégocier le prix avec nous, que le prix de l'or a augmenté considérablement, que etc., etc., qu'on s'était trompé sur le premier prix, ce qui peut arriver aussi. Tu vois, les gens sont pas forcément contents, et nous, bien sûr, on fait un geste si jamais ils étaient déjà en train de dans une démarche, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils le comprennent et ils vont pas nous en vouloir. Donc vraiment, si t'es sincère dans la démarche et que tu l'expliques, je pense qu'il y a assez peu de choses que tu peux pas dire à ta communauté.
D'accord. Et d'ailleurs, j'en profite parce que tout à l'heure, tu parlais d'investisseurs, et tu crois que des investisseurs, ils investissent dans un site qui est aujourd'hui gratuit pour devenir payant, ou il faut déjà avoir...
Écoute, j'ai un assez bon exemple d'une boîte qui était entièrement gratuite, qu'elle fait quand même pas mal de fonds. Cette petite boîte s'appelle Facebook. donc, si tu veux...
Merci de la comparaison.
Des boîtes qui font 0 € de chiffre d'affaires et qui arrivent à lever beaucoup de fonds, crois-moi qu'il y en a beaucoup, et c'est même plutôt l'inverse, si je suis tout à fait honnête, qui est rare. C'est-à-dire que très souvent, les investisseurs investissent plus... Je fais un peu une blague, mais bon, le chiffre d'affaires au début, quand on investit, n'est pas la priorité. C'est plus, en général, l'attraction autour d'une communauté. Quand je dis l'attraction, c'est au sens TRACTION. Le fait qu'il y ait de l'attraction, ça va être être justement le mouvement, ça peut être, tu vois, le volume de commentaires. Enfin, il y a énormément d'entreprises qui ont fait des très très grosses levées de fonds auprès d'investisseurs parce qu'en fait ils avaient réussi, si tu veux, à créer un engouement, pas forcément financier au départ. Le business model d'ailleurs était pas forcément très clair, hein. Enfin, une fois de plus, je pense que l'exemple de Facebook il est très parlant. Enfin, Facebook, je me rappelle pas l'année de la création, mais c'est peut-être 2004, 2005, quelque chose comme ça. C'est pas avant quasiment 2010 qu'ils ont commencé à faire de la pub. C'est avec le recrutement de Sheryl Sandberg. Donc, ils ont attendu quand même 5 ans et c'était déjà une boîte mondialement connue, située avec des millions et des millions d'utilisateurs avant qu'ils commencent à générer 1 euro de chiffre d'affaires. Ouais. Donc, bon, c'est un exemple un peu extrême, hein, mais ce que je veux dire, c'est que si jamais t'as vraiment une force, c'est d'avoir créé une communauté et de te réussir à avoir une communauté très fortement grandissante, c'est-à-dire avec une forte croissance, je parle plus français, eh bien, oui, tu pourras peut-être lever des fonds. Enfin, franchement, c'est pas du tout impossible.
D'accord, c'est pas antinomique. Enfin, c'est ça que, enfin, voilà, je... Tout, moi, non, je découvre, que... en fait, j'avais jamais prévu un jour de me lancer à mon compte, en fait, du coup, c'est... Bah, c'est la vie qui fait ça, enfin, c'est très bien, mais du coup, c'est vrai qu'il y a plein de choses que je découvre et que, du coup, je me pose pas mal de questions à ce sujet-là.
Bah, écoute, ça pourra faire l'objet d'une autre leçon.
Mais déjà, c'est bien que de savoir que c'est pas complètement irréalisable.
c'est pas du tout irréalisable. Je te dis, c'est même la plupart des entreprises qui lèvent des fonds ce qu'on appelle en amorçage, c'est le vocabulaire, ou on dit en anglais en seed. J'ai récemment fait une interview avec un investisseur qui s'appelle Jean de la Roche-Brochard. Je t'invite à écouter les deux interviews que j'ai fait avec lui parce qu'on en parle en détail. Et en l'occurrence, lui, son métier, c'est justement de lever des fonds auprès d'entreprises en amorçage, c'est-à-dire qui sont encore toutes petites, toutes piou-piou, et qui, en général, franchement, n'ont pas de chiffre d'affaires. Donc ça existe tout à fait. Si tu veux, le rôle de l'investisseur dans ce genre de cas, c'est d'essayer de voir s'il y a une opportunité, d'essayer de voir s'il y a déjà de la croissance sur un KPI, c'est-à-dire un indicateur intéressant comme la communauté par exemple, et puis ensuite de faire un pari, quoi, tout simplement. Il sait pas si ça va marcher, si ça va pas marcher, mais s'il croit dans l'entrepreneur, qu'il croit dans le projet, il peut parfois faire un pari effectivement, et ensuite aider l'entrepreneur aussi d'ailleurs à transformer ce bel essai en chiffre d'affaires sonnant et trébuchant.
D'accord. Ah ouais, merci. Enfin, ça fait du bien d'échanger avec toi parce que je me dis que c'est pas que utopique et qu'il y a. Enfin, après, ça veut pas dire que ça va marcher, mais en tout cas, c'est pas que utopique. Il y en a qui l'ont déjà fait.
Il y en a plein qui l'ont déjà fait. Par contre, du coup, ça veut dire qu'il faut que t'aies, excuse-moi d'être vulgaire, mais une putain de croissance sur ta communauté parce que tout le monde, enfin, il y a beaucoup de gens qui essayent de jouer ce jeu-là et ce sont donc les personnes les plus fortes, quoi, qui vont réussir à attirer des investisseurs.
C'est pour ça que j'essaye de faire grossir au moins la communauté des hébergements le plus possible. Aujourd'hui, j'en ai presque 300. Pour que Super. Chacun puisse y trouver son compte et que du coup les gens qui veulent partir en vacances se disent en fait c'est pas plus difficile de partir de manière durable que de partir normalement. Et quand on a le choix, on a forcément plus de chances de trouver l'endroit où on voudrait partir.
En fait. Clairement. Excellente idée. Effectivement, la communauté, ça peut être aussi ton offre, en fait, quoi, d'une certaine manière. C'est pas forcément uniquement ta communauté de followers. Donc, c'est hyper intéressant. Voilà. Bon, bah écoute, Anne, en tout cas, c'était un plaisir de discuter avec toi. Si on veut retrouver... tout ce que tu fais, justement, peut-être faire partie de ta communauté, ça se passe où?
Alors, il y a le site internet déjà, éthique avec un K, avec le tiret du 6 hôtelauplurel.com. Donc là, vous trouverez tous les hébergements. Et puis, il y a le compte Instagram aussi, éthiquehôtel, sur lequel je suis assez active.
Canon.
Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, ça me fera très plaisir.
Eh ben, écoute, le message est passé, en tout cas, ça sera mis dans les notes de l'épisode. Merci à toi, Anne.
Merci, Pauline, pour tous tes conseils et pour le temps que tu m'as accordé.
Avec plaisir. À bientôt.
À bientôt.
Et voilà, terminé pour aujourd'hui. Un grand, grand merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que le format vous a plu. Si oui, dites-le moi avec 5 étoiles ou même un petit commentaire sur l'application iTunes. Et puis si iTunes, c'est pas votre truc, si Apple, vous n'avez pas envie d'en entendre parler, c'est pas grave, vous inquiétez pas, il y a d'autres moyens de m'aider. Vous pouvez tout simplement en parler autour de vous. Prenez 2-3 amis et puis diffusez-leur le podcast. Moi, ça m'aide énormément et qui sait, ça les aidera aussi peut-être. Quoi qu'il en soit, merci pour votre temps. N'hésitez pas à postuler aussi à la leçon du gratin si l'idée de passer sur le podcast vous intéresse. Donc à vous de jouer et bientôt pour une nouvelle leçon du gratin.